pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'était il y a 5 ans, un jour de février. Devant des cardinaux réunis pour l'occasion, en latin, le pape Benoît XVI annonce sa renonciation. Oui, le pape démissionne, il quitte la fonction papale, il jette l'éponge. Un tel événement n'était pas arrivé depuis 1415 et Grégoire XII, qui fut poussé à abdiquer à la suite d'une crise au sein du concile. En fait, c'est la première fois en 2013 qu'un pape se décide à ne plus être pape de son vivant et en temps de paix, en n'étant ni contraint ni menacé par le premier empereur venu. Les théoriciens du complot s'en donnent à cœur joie pour fournir une explication à cette étonnante renonciation. Homosexualité cachée, squelette dans le placard du Vatican et autres explications peu catholiques. Tout en sobriété et en modestie, Benoît XVI lui-même explique qu'il manque de force pour continuer. D'autres démissions, plus ou moins fracassantes, ont depuis attiré l'attention, car elles viennent de ceux dont on l'attend le moins, et que la démission demeure suspecte, une tâche ou un coup d'éclat. Après l'Église, c'est au tour de la Grande Muette et son chef d'état-major, Pierre de Villiers, de battre en retraite cette année. En juillet, après avoir défilé le 14 aux côtés du président nouvellement élu Emmanuel Macron, le général d'armée annonce 5 jours plus tard qu'il démissionne. Ses demandes d'augmenter le budget de l'armée n'ont pas été entendues. Il s'est permis d'exprimer son dépit publiquement. Le bras de fer entre le président et le général des armées est une des premières épreuves de force pour le nouvel élu. Emmanuel Macron l'utilise pour installer son pouvoir. Il déclare dans le journal du dimanche le 16 juillet « Si quelque chose oppose le chef d'état-major des armées au président de la République, le chef d'état-major des armées change ». La démission de De Villiers apparaît alors comme une protestation spectaculaire, un acte de bravoure. Il quitte ses fonctions sous des applaudissements nourris. Aux États-Unis, en un an de présidence de Donald Trump, ce sont 27 proches collaborateurs du chef de l'État qui ont démissionné, du conseiller de l'ombre Steve Bannon au directeur du FBI, James Comey, pour protester, se protéger, de gré ou de force. Peut-être ont-ils mis à un moment donné leur démission dans la balance pour négocier un point, ce qui est rarement payant. Le PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, qui en mai dernier conditionne son maintien au vote d'un accord salarial proposé par la direction, en a fait les frais. Le vote est négatif, il démissionne. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, 3 autres histoires de démission, vous l'avez compris, elles sont racontées par des personnes bien moins illustres et nanties, mais tout aussi intéressantes, Alice, Philippe, Awa. Ce sont 3 récits d'Alice Babin sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Moi, je m'appelle Alice, donc j'ai 29 ans. Je suis diplômée depuis 2012. J'ai bossé dans les médias et beaucoup dans la pub. Et j'ai eu une opportunité, du coup, il y a un peu plus d'un an, de rentrer chez un tourneur, donc un producteur de concerts. Moi qui suis... très musique, dans une famille de musiciens, c'était un peu le boulot rêvé. Et puis au niveau de ce qu'il y avait comme groupe chez Gérard Productions, c'est beaucoup de classique rock et de jazz, et c'est la musique que mon père m'a fait écouter depuis que je suis toute petite. Et puis moi, mes goûts musicaux, je suis ultra fan d'Elton John, Isabelle Elton John. C'était un peu le rêve, quoi, aller à des concerts gratuitement, être en backstage, et puis faire mon métier en même temps. Faire la promotion digitale de concerts, enfin sur le papier, c'était vraiment parfait. Et les premières semaines se sont bien passées, mais très vite, je me suis rendu compte que bon, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette boîte. Il y avait beaucoup de personnes déprimées. Au niveau du fonctionnement général de la boîte, c'était un peu une structure où il y avait le grand patron et ses 34 assistants de direction. Quoi qu'on fasse, il pouvait finir par mettre un peu son nez dedans et tout annuler au dernier moment. Et la décision finale, c'était la sienne, et c'était souvent pas la bonne. C'est quelqu'un qui s'amusait un peu vraiment à détruire les gens. Il trouvait leurs points faibles, et là, il attaquait, quoi. Ce qu'il aimait beaucoup faire, c'était... Il était dans un échange de mails, lui, avec une personne en particulier. Il y a un moment où il allait lui dire « c'est nul », et au moment où il disait que c'était nul, il mettait toute la boîte en copie. Ah, moi, il me disait pas que j'étais nulle, mais en fait, je pouvais rien faire. C'est le digital, c'est quelque chose où il faut vraiment suivre les nouvelles tendances et voilà, être un peu ambitieux. Sinon, on stagne et on n'avance pas. Et donc, dès que je commençais à vouloir amener un nouveau projet, donc je travaillais ma présentation, je travaillais tout, j'avais le go pour lancer une petite campagne avec 100 € et après ça, il fallait tout justifier. Et malgré ça, il disait non, mais en fait, je comprends pas ce que vous me dites. En fait, ça sert à rien. Je dépense de l'argent pour rien. Et donc, stop. J'avais l'impression de désapprendre. Enfin, vraiment, je désapprenais. Donc, moi qui aime bien ce que je fais à la base, mon métier, c'était horrible parce que j'avais l'impression d'être juste son assistante. Quoi. Et être l'assistante d'un mec comme ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et voilà. J'ai vraiment voulu partir au bout de 2 mois. J'ai commencé à chercher autre chose. Je me suis assez vite rendu compte que c'était très compliqué de trouver le temps et l'énergie de postuler. J'ai passé un entretien pour un job qui était bien en dessous de mes compétences, qui était seulement un CDD de 3 mois. Et j'ai presque pleuré à l'entretien. J'étais incapable psychologiquement d'entamer des démarches pour me vendre en entretien. Et j'étais convaincue que j'étais nulle, quoi, que je savais rien faire. Et... Ce qui m'a vraiment empêchée de démissionner, c'est tout simplement mes parents qui me disaient de ne pas démissionner. Qui me disaient, on ne démissionne pas quand on n'a pas un autre travail. On ne démissionne pas quand on n'a pas de revenus, quand on n'a pas de quoi vivre. Donc, prendre une décision contraire à ce que mes parents me conseillent, je suis encore un peu jeune pour ça, peut-être, c'est toujours compliqué. Enfin, j'avais besoin qu'ils soient derrière moi et qu'ils me soutiennent, quoi. Et voilà, après, par période, il y a des semaines où ça allait un peu mieux, où j'arrivais à me faire mon petit coin, m'isoler, pas trop me laisser perturber par les très mauvaises ondes des gens autour de moi dans le bureau, pas me laisser atteindre par les remarques. Et en fait, ça marchait pas mieux parce que j'étais toute seule toute la semaine et c'était hyper déprimant et c'était pire. Donc moi, il y avait pas de solution, quoi. C'était vraiment, je me levais le matin en me disant « c'est pas possible, j'y retourne ». Donc il y a aussi beaucoup de jours où j'y allais pas. J'ai été assez vite, régulièrement en arrêt de travail, dès que j'avais un petit rhume ou dans un boulot que t'aimes, tu vas au boulot, il n'y a pas de problème. Là, j'y allais pas, donc on essayait de savoir, des questions, de rentrer dans des trucs hyper personnels. Mais qu'est-ce que t'as? Mais t'es souvent malade, c'est bizarre, tu devrais faire du yoga, tu devrais essayer ça. Moi, je vais bien. Et du coup, oui, c'était horrible pour ma copine avec qui je vis et moi, parce que chaque jour, c'était de pire en pire. Et je commençais vraiment à m'enfermer aussi au niveau de mes amis. Je voyais plus personne, en fait, parce que j'avais envie de rien faire. J'étais rentrée dans une dépression complètement. Je m'en étais pas rendu compte, mais moi qui adore cuisiner... Je sais pas, mon truc préféré, c'est la pizza. Là, je rentrais à la maison, Chloé me disait « on va manger une pizza ». J'avais même pas envie, j'arrivais à faire aucun projet. Rien ne me faisait plaisir, j'avais envie de voir personne. Et donc, il y a eu un moment où j'ai été très mal, et jusqu'à un soir où j'ai un peu pété un plomb. J'ai fait une nuit aux urgences, s'en est suivi une semaine d'arrêt de travail, pendant laquelle j'ai eu le temps de là vraiment trouver un psy, parce que j'en avais pas trouvé. Du coup, ma psy m'a arrêtée pendant 1 mois, puis 1 mois et 2 semaines, puis 2 mois, puis ça finit par un arrêt de travail qui a duré au total 3 mois, pendant lequel je me suis reconstruite. J'allais à la piscine, je cuisinais, je faisais tout ce que j'avais pas fait pendant presque 1 an. Pendant cet arrêt de travail de 3 mois, il y a plein de fois où j'ai failli donner ma démission. Enfin, au niveau des entretiens et des recherches de travail, j'ai l'impression que ça m'handicapait d'être encore rattachée à ça. Ça m'épuisait, et du coup j'avais envie que ce lien soit complètement brisé et que j'ai plus aucun compte à lui rendre. Mais bon, à chaque fois que je me disais ça, après je me disais « mais si je fais ça, je perds tous mes droits ». Je m'imaginais au chômage pendant 3 ans, à partir de ce moment-là, sans plus jamais trouver de travail... J'avais peur que, qu'en faisant ça, en donnant ma démission sans travail derrière, je me mette dans une situation un peu de marginale, quoi. Puis tout le monde autour de moi me disait « Mais non, mais attends de trouver quelque chose quand même. Donne pas ta démission si t'as rien derrière. Même si t'es en arrêt de travail, il vaut mieux passer un entretien en disant que tu as un travail. Plutôt que de dire que t'es au chômage, quoi. » Donc ma seule solution, c'était de me bouger pour trouver un travail et pouvoir donner ma démission. Ce que j'ai fini par faire, j'ai eu de la chance, c'est du réseau que j'ai cultivé aussi. Et voilà, j'ai trouvé un super boulot et du coup j'ai pu envoyer cette fameuse lettre de démission qui était prête depuis un moment. Mais si c'était à refaire, je démissionnerais plus tôt. Je démissionnerais avant vraiment cet épisode des urgences et... Ouais, je démissionnerais, j'aurais démissionné au bout de 3 mois, ça aurait rien changé. Bon, j'aurais pas vu Elton John, mais tant pis.
Je m'appelle Philippe Gilles, j'ai 63 ans, je suis maire de la commune de Courcelles depuis 8 mois, c'est une petite commune du nord de la Nièvre qui a 215 habitants. J'ai toujours habité ce village, je travaillais à la poste, je suis maintenant retraité et depuis un an, je suis maire de la commune de Courcelles suite à la démission de l'ancien maire. Et je suis très attaché à mon village non pas possessif mais affectif, puisque toute ma famille a toujours vécu là, assez loin quand on remonte dans le temps. Mon grand-père a été maire en 1904, et c'était un des plus jeunes maires de France, puisqu'il a été maire à 22 ans, et à l'époque on pouvait être maire à 21 ans, je crois. Mon grand-oncle a été maire, mon père a été adjoint pendant 3 mandats, c'est-à-dire 18 ans, et puis j'ai été adjoint au maire pendant 2 mandats, puis maire là depuis peu. Quand on est maire, on est responsable vis-à-vis des gens qui nous ont élus, et donc on doit défendre l'idée majoritaire des gens qui nous ont élus. On ne peut pas prendre en compte que ce que soit on pense. Et c'est vrai que les gens de mon village ont de plus en plus l'impression d'être laissés pour compte. Les campagnes sont un peu abandonnées. On supprime des écoles, on supprime des gendarmeries, on supprime des perceptions, on supprime des trains. On nous enlève beaucoup de services, comme si quelque part, dans les campagnes, on était plus rentable et plus intéressant pour notre société en croissance, etc. Et la ministre qui est venue à Nevers nous a dit que les petits hôpitaux de campagne n'étaient pas performants et que elle, je la cite à peu près, hein, elle nous a dit qu'elle voulait des hôpitaux où elle puisse amener en toute confiance ses propres enfants. Nous, on n'a jamais demandé à avoir un hôpital qui soit de la qualité de la Pitié-Salpêtrière. On veut simplement avoir un hôpital qui puisse nous recevoir quand on en a besoin, une structure avec un médecin. Et donc, quand on nous a annoncé qu'il y avait une suppression d'une ligne d'urgence, enfin d'un médecin urgentiste de nuit, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'on a pensé à la démission. C'était un acte ultime pour que on dise voilà, on peut même on peut même plus se battre, on y croit vraiment plus, on a vraiment l'impression d'être abandonné, et on abandonne la vie publique, c'est-à-dire que moi, ma vie personnelle va changer un peu parce que je serai plus maire, mais ça va pas remettre en cause mon existence, quoi. Par contre, ça va être la fin de mon existence publique. Et donc, c'est quelque chose de très, 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 très dur, quoi. Ça a été très compliqué pour moi. Et j'étais pas pour la démission au début. Pour moi, c'était... on démissionnait pas, en fait, quelque part. C'est pas dans ma culture, quoi. C'est pas dans mes habitudes, c'est pas... Moi, j'ai jamais entendu parler de démission. Ça a été une première, c'était un acte extrêmement important. Alors voilà, c'est bien ça qui m'a fait, quand je me réveillais, y penser la nuit, avoir un peu de mal à m'endormir, c'est que quelque part, c'était un abandon. C'était quelque part, on baissait les bras. On se battait plus, quoi. Parce que la démission, c'est l'acte ultime, c'est l'acte fort, c'est la fin, c'est la mort, quoi. C'est quelque chose d'hyper important, d'hyper grave, et c'est vrai que je me disais, quelles conséquences, et puis comment prendra-t-on en compte ma démission, toute proportion gardée, c'est quelqu'un qui vous dit j'en ai marre de la vie parce que ça va plus, parce que si, parce que ça, et j'ai envie de me jeter par la fenêtre, quoi. Si jamais en face il a je m'en fous un peu ou pas de réponse, ça va être aussi difficile à assumer, quoi. Et donc j'ai longuement hésité, j'en ai parlé officiellement au conseil municipal, j'ai eu l'aval unanime, il m'aurait manqué une voix, je ne l'aurais pas fait. Une majorité de la population à qui j'ai pas parlé, à tous les gens de Courcelles, mais à une majorité de gens de Courcelles qui m'ont approuvé dans la démarche et qui m'ont dit « Oui, en démissionnant, tu nous représentes, tu représentes notre mal-être et donc tu fais ton boulot de maire et quand tu rends symboliquement ton écharpe, ça veut dire que tu n'es plus en capacité de vraiment nous représenter puisque nous, on te demandait de faire des choses que tu n'étais plus capable d'assumer, donc tu démissionnes. » Et c'est très bien.
Et cette démission aujourd'hui, vous ne la regrettez pas ?
Non, maintenant que la décision est prise, non. Parce que c'est aussi cette forme d'éducation qu'on a reçue ici. C'est que une fois qu'on a pris une décision, comme une fois qu'on a tapé dans la main, on revient plus, même si on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on a tapé dans la main. On s'est engagé, on a signé, c'est fini. Donc non, je regrette.
Je m'appelle Awa, j'ai 24 ans, j'ai fait sanitaire et social, en STS2S, c'est un bac pro et... J'ai pas pu terminer ma filière parce que du coup, je tombe enceinte de ma fille. À 17 ans, j'ai accouché à 18 ans. Et mon premier métier, c'était dans la vente. J'ai travaillé dans la vente de luxe au Bon Marché, ensuite à Gap. Et j'ai ensuite fait une préparation à l'emploi pour devenir aide à domicile. Et ensuite, je suis devenue aide à domicile. Alors de base, l'aide à domicile, elle aide pour... Les repas, pour l'entretien des locaux, on va dire des locaux, de l'entretien du particulier, parce que du coup c'est chez personne. On peut aussi aider par rapport au jeu, on peut les distraire, on va dire. Et normalement c'était tout. Enfin, c'est tout ce qu'on était censé faire en fait de base. Et j'avais une personne âgée, c'était un homme, il était âgé, et sa fille, elle avait la sclérose en plaques, et du coup elle était plus jeune que lui, elle devait avoir la quarantaine. Mais il fallait aussi qu'on s'occupe d'elle, donc c'était elle et son père. J'avais aussi une autre personne âgée, c'était un couple. Et la femme était atteinte d'Alzheimer. Et il y avait son fils aussi qui était handicapé. fallait quand même aussi prendre en compte son handicap. Et j'avais un emploi du temps. C'était par exemple, le matin, j'ai 30 minutes, voire 45 minutes chez une personne. Ensuite, j'ai le trajet, parce qu'ils n'habitaient pas du tout aux mêmes endroits. Il y en a, ils habitaient à Saint-Denis, d'autres au Bourget, donc il fallait que je prenne le tram. Des fois le tram ou des fois le bus. Voilà. Il fallait que je me dépêche pour aller chez l'autre personne. Et en fait, on avait un système de téléphone. C'est eux qui leur donnent le téléphone avec un numéro. Ils nous donnent un numéro à nous. Et on note le numéro et ils voient en fait à quelle heure on est arrivé. On a pointé quoi. C'est comme si on pointait. Fallait que je cours tout le temps chez d'une famille à une autre. Et ce qui était compliqué aussi, c'était que normalement c'était un 35h, mais ça pouvait m'arriver de faire un 40h en fait. Et les heures de plus, ils n'étaient pas comptées. Et voilà, on n'avait pas assez de temps pour tout faire chez les personnes. Donc voilà, c'était assez compliqué. Fallait que je fasse un travail voilà, à la chaîne, comme dans une usine où il faut faire ça, comme ça, c'est tous les jours pareil. En fait, j'avais l'impression de ne plus en pâchir. Dans le sens où fallait que je fasse ça, c'est réglé, hop, au revoir, je pars. J'en parlais à ma référente, je lui disais, ouais, c'est pas possible, j'ai pas assez de temps pour faire ça à chaque fois. Elle me dit, c'est pas grave, je laisse. Voilà, c'était en fait, c'est pas grave, tu laisses et tu vas chez l'autre famille, au moins, t'as pointé. Sauf qu'en fait, c'est pas comme si c'était des bureaux, on s'occupe de personnes humaines, donc c'est des gens comme nous. Et je les voyais plus que je voyais ma famille. En fait, on commence à s'attacher aux personnes. Et c'est petit à petit où j'ai commencé à réaliser en fait que c'était pas bon ce que je faisais. Parce qu'en fait, au final, c'est on déshumanise les personnes. On s'en rend pas compte, hein, mais voilà, c'est comme si on faisait un travail à la chaîne. Et en fait, j'ai l'impression qu'eux, ils se rendaient pas compte que c'était une négligence. Ils s'en rendaient pas compte. Pour eux, c'était bon, voilà, bah, elle travaille. C'est son travail, elle doit vite me donner à manger, t'as courir là-bas. Ils se rendaient pas vraiment compte. Surtout que c'était vraiment. C'était pas Paris 6e, c'était 93 arrondissement. Voilà, c'était en 93. Donc, c'est pas pour dire aussi que cette association a fait en fonction des rangs des personnes, mais en gros, je pense que si ce serait dans un quartier avec des personnes qui est un peu plus aisées, eh ben, ce serait pas le même comportement, ce serait pas le même travail, ce serait pas la même chose. On y aurait plus de soins et on serait plus à l'écoute de la personne. Ouais, c'est triste. Mais c'est pas à moi, en fait, c'était pas à moi de faire changer les choses. J'aurais pu faire quoi, en fait, moi, par rapport à ça? J'en ai déjà parlé à ma référente, ça a rien changé du tout. Donc, je me suis dit, je vais pas continuer dans ça, en fait. Moi-même, je ne vois pas me lever tous les matins et continuer à maltraiter les gens comme ça. Donc, j'ai pensé d'abord à démissionner. J'y pensais vraiment. Et un jour, bam, j'ai cherché. J'ai fait une lettre de démission. J'ai regardé sur Internet. Et ensuite, j'ai mis à peu près mes mots à moi. Et je suis partie voir la DRH. Et je lui ai dit, écoutez, madame, je veux démissionner. Ils n'étaient pas préparés à ça, dans le sens où je savais déjà ce que je voulais. Généralement, les gens, ils viennent, ils hésitent un peu, en fait. Avant de venir, ils en font part à soit des collègues, soit... une personne qui est au-dessus d'eux, mais non, en fait, moi, c'est d'un coup, je suis venue, bam, je leur ai dit, voilà, je veux plus travailler avec vous, et j'ai donné ma lettre de démission. Et par rapport à l'argent, j'avais pas trop peur, je me disais, de toute façon, il y a le père de ma fille, financièrement, il est là, il y a mes parents, donc j'habite encore chez mes parents, donc par rapport à ça, ça va, je suis tranquille, c'est pas comme si j'avais mon propre appartement, et il fallait que je gère tout ça, en fait. Sinon, voilà, ça aurait été compliqué, voilà. Moi, pour moi, un travail, tu dois l'aimer. Si tu l'aimes pas, à un moment donné, tu satures, t'en as marre, et. Tu peux être amené à faire une dépression même en travaillant dans quelque chose que t'aimes pas. En fait, c'est ça que les gens ils se rendent pas compte, parce que pour l'instant, voilà, on pense à l'argent, mais on dirait que c'est tabou de démissionner parce qu'on n'en parle jamais. Par exemple, au collège, on nous apprend à faire les CV, les lettres de motivation, les entretiens, à passer des entretiens, même à la mission locale ou autre, mais on nous apprend pas comment faire une lettre de démission, or que dans notre vie, on peut être amené à démissionner. Donc, ce serait important quand même de savoir qu'on peut démissionner, comment faire la lettre, comment démissionner. Et en fait, ça, c'est les gens qui doivent se renseigner sur ça pour le savoir. Sinon, on leur apprend pas. Je trouve que c'est dommage. Moi, en fait, c'est pas l'âge de démissionner en soi, parce que c'est dur de le faire. En fait, on nous a tellement mis dans la tête que t'es pas censé démissionner, mais t'es censé travailler, enfin, chercher du travail, voilà. Enfin, t'es censé trouver du travail et garder ton emploi. Qu'il y a des gens qui peuvent culpabiliser et se dire... Oh là là, mais si je démissionne, enfin, comment je vais dire à mon patron, je vais arriver devant lui. J'ai une copine à moi, elle me disait, mais t'es folle, tu crois que c'est facile de trouver du travail et tout. Et comme j'ai expliqué, t'aurais pas aimé que je sois comme ça avec ta grand-mère. je sois comme ça avec ta mère, donc pourquoi tu arrives à me dire en gros, ah ouais, tu fais n'importe quoi, t'aurais dû rester. Imagine que ce soit ta mère ou ta grand-mère et que c'est moi qui m'occupe d'elle comme ça. Mais le fait d'avoir peur de démissionner par rapport au regard des autres, bah c'est triste, et surtout que c'est... En fait, il faut qu'ils se disent que c'est la société qui est comme ça, en fait. On nous apprend à, voilà, comme je me répète, on nous apprend à trouver du travail et à le garder. Donc, je pense que ça a été bénéfique parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai compris que j'étais une personne assez forte et je me suis dit, je peux toujours rebondir. Je vais toujours essayer de gravir les échelons. Et alors qu'avant, je ne me rendais pas compte. Avant, je me disais, ah ouais, je vais faire ça parce que voilà.
Ça a l'air trop bien.
Mais tu veux parler, tu veux dire quoi?
Ma maman, je l'aime beaucoup.
Moi, je croyais que tu me parlais d'un métier. Que tu allais me dire plus tard, je vais venir à la télé, je vais passer au journal.
Ah, moi, je t'ai dit ce que je veux faire.
Ouais, tu veux faire quoi?
Dentiste et maîtresse.
Ouais, deux métiers.
Oui.
Ça veut dire quoi, démissionner?
Ça veut dire, mais je peux partir et j'y vais dans un autre travail.
Ouais, c'est ça.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Démission, un reportage d'Alice Babin réalisé par Cécile Lafont. Merci à Awa, à Alice et à Philippe. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Céline Autain, c'est notre stagiaire.